Donc, frères et sœurs, nous prions aujourd'hui particulièrement pour le monde de la santé, donc en premier lieu pour les malades et leurs familles qui sont le centre de votre sollicitude. Donc je suis heureux, bien sûr, d'accueillir dans cette cathédrale, notre cathédrale, les médecins, personnels soignants, ceux qui, par leur travail, servent les malades, et aussi heureux d'accueillir tous ceux qui participent au service de la pastorale de la santé dans notre diocèse, dont la mission est de manifester la charité du Christ auprès des malades. Et aujourd'hui, cela nous a été rappelé, la paroisse de la cathédrale prie particulièrement pour les défunts de l'année. Nous entourons de notre prière les familles, les amis, de ceux qui ont perdu un proche au cours de ces derniers mois. Alors, aux médecins et soignants, et à tous ceux qui s'investissent dans la pastorale de la santé, vous participez de la compassion du Christ face à la fragilité humaine, face à la vulnérabilité. Vous mettez en œuvre ce que le pape nous a rappelé au cours de l'année de la miséricorde, les œuvres de miséricorde. Vous êtes aussi au service de la vie, mais à travers ce qu'elle a de fragile. Vous êtes au service de la vie, et c'est une perversion terrible quand la médecine se met au service de la mort. Quelles que soient les justifications que l'on utilise pour cela, la grandeur de votre travail, c'est justement d'être serviteur de la vie et de soulager la souffrance. Vous êtes aussi au service du mystère de la personne humaine dans sa totalité. Vous êtes au cœur, en réalité, aujourd'hui, d'un combat difficile. Car vous le savez, il n'y a plus aujourd'hui une vision claire et un propos commun sur ce qui fonde la dignité fondamentale de la personne humaine. De ce point de vue, notre société est dans une confusion totale. La personne humaine est supérieure aux éléments matériels et est irréductible à une simple parcelle de la matière ou à un élément anonyme de la cité humaine, dit le Concile Vatican II. Tout homme, quelle que soit sa situation, l'étape de sa vie, son origine, sa fragilité, est unique et infiniment respectable. Permettez-moi de vous citer le pape François. Dans de nombreux lieux, la qualité de la vie est principalement liée aux possibilités économiques, au bien-être, à la beauté, à la jouissance physique, en oubliant d'autres dimensions plus profondes, relationnelles, spirituelles et religieuses de l'existence. En réalité, à la lumière de la foi et de la juste raison, la vie humaine est toujours sacrée, toujours de qualité. Il n'existe pas une vie humaine plus sacrée qu'une autre. Ou encore, vous le savez, la pensée dominante propose une fausse compassion, celle qui considère que c'est aider une femme en favorisant l'avortement, un acte de dignité en procurant l'euthanasie, une conquête scientifique de produire un enfant considéré comme un droit au lieu d'être accueilli comme un don, ou d'utiliser les vies humaines comme cobayes de laboratoire en prétendant sauver l'autre. Ça, c'est le pape François. Le progrès technique est une excellente chose, mais si au progrès technique ne correspond pas un projet dans la formation éthique de l'homme, dans la croissance de l'homme intérieur, pour reprendre l'apôtre saint Paul, alors ce n'est plus un progrès, mais une menace. Ce n'est pas la science qui rachète l'homme, l'homme est racheté par l'amour, dit Benoît XVI. Alors ensemble, mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu de ce dimanche. Donc je vous invite à retenir, si vous voulez bien, trois aspects et trois mots. La sagesse, l'espérance et la vigilance. Alors la sagesse, celle dont nous parle la première lecture, nous sommes invités à la chercher et à l'aimer. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Je pense à la célèbre prière du roi Salomon. Vous savez, durant la nuit, je cite l'Écriture, Dieu apparaît à Salomon et lui dit « Demande ce que tu veux et je te le donne ». Salomon répondit à Dieu « Tu as montré une grande bienveillance envers David mon père et tu m'as fait régner à sa place. Accorde-moi la sagesse et l'intelligence afin que je sache me conduire devant ton peuple, ce peuple si grand. » Et Dieu dit à Salomon « Parce que c'est là ce qu'il y a dans ton cœur et que tu ne m'as demandé ni la richesse, ni les biens, ni la gloire, ni la mort de tes ennemis, et que même tu ne m'as pas demandé une longue vie, et que tu m'as demandé pour toi la sagesse et l'intelligence, pour juger mon peuple, la sagesse et l'intelligence te sont données. » Mais qu'est-ce que la sagesse ? La sagesse, dit l'Écriture, commence par la crainte de Dieu. Non pas au sens de la peur de Dieu, mais la crainte de Dieu signifie reconnaître que Dieu est Dieu et que et pas nous. C'est mettre Dieu à sa place, c'est donc remettre l'homme à sa place, à sa juste place. La sagesse est fondamentalement liée à l'humilité. L'humilité face à Dieu, l'humilité face au mystère de la vie humaine, face à la grandeur de la personne humaine, humilité aussi face à la mort. La recherche de la sagesse n'est pas sans rapport avec la parabole des 10 vierges de l'Évangile, dont on dit que 5 d'entre elles étaient insensées, folles, et que 5 sont sages. Alors les insensées le sont, elles manquent de sagesse d'une certaine manière. Ce qui leur est reproché, c'est d'être imprévoyante, une forme de désinvolture, d'irresponsabilité qui a pour conséquence qu'elles ne sont pas présentes quand l'époux arrive. On ne leur reproche pas de s'être endormies, car toutes se sont endormies, mais de ne pas avoir prévu leur réserve d'huile, d'une certaine manière, excusez-moi, de ne pas avoir réfléchi. Alors l'espérance. Dans la seconde lecture, saint Paul rappelle avec force que Jésus est mort et ressuscité et qu'il nous entraîne dans sa résurrection. Que la mort n'est pas le dernier mot sur la vie et que par conséquence, il ne faut pas que nous soyons, que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Et saint Paul ajoute, réconfortez-vous les uns les autres avec ce que je viens de dire. C'est dans cette consolation que nous voulons entrer quand nous prions pour nos défunts. Vous le savez, la foi en la résurrection est le cœur de la vie chrétienne, elle en est le fondement. Si on supprime la foi en la résurrection, ou si on considère que ce n'est pas si sûr, que c'est une manière de dire les choses, que c'est symbolique, alors le christianisme n'est qu'une idéologie parmi d'autres, un simple art de vivre. La foi en la résurrection, en réalité, modifie notre relation à la mort et à la vie. Nous prions pour les défunts de l'année et pour leurs familles touchées par la mort d'un proche. Pourquoi ? L'Église croit que la communion entre nous ne s'arrête pas avec la mort. Qu'il y a une seule Église dont les membres sont à des étapes différentes. Le Concile Vatican II nous le rappelle ainsi donc, en attendant que le Seigneur soit venu dans sa majesté et que la mort détruite, tout lui ait été soumis, les uns parmi ses disciples continuent sur la terre leur pèlerinage. Ça c'est nous. D'autres encore, ayant achevé leur vie, se purifient encore, ce qu'on appelle le purgatoire. Et d'autres, enfin, sont dans la gloire, contemplant dans la pleine lumière tel qu'il est le Dieu en trois personnes. La charité continue à s'exercer entre nous au-delà de la mort. Le concile dit l'union de ceux qui sont encore en chemin avec leurs frères, qui sont endormis dans la paix du Christ, ne connaît pas d'intermittence. Au contraire, selon la foi constante de l'Église, cette union est renforcée. Nous croyons que la résurrection de Jésus a ouvert la voie à la certitude de la vie future. La relation à la mort est un grand défi, vous le savez. Et nous avons à le relever, et spécialement peut-être dans la culture contemporaine, qui vit comme si nous n'allions jamais mourir. Et parfois, on banalise la mort jusqu'à en la faire devenir une simple fiction, ou alors on la cache. On nous dit même que l'homme qui vivra 2000 ans est déjà né. Tu parles. Alors que la mort fait partie du mystère de la vie, on doit s'y préparer, mais avec espérance. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Nous avons un avenir et une espérance. Cette espérance nous donne déjà quelque chose de la réalité attendue. Le fait que cet avenir existe change le présent. Le présent est touché par les réalités futures. Cette espérance transforme et soutient notre vie. Enfin, la vigilance. Alors, la sagesse, l'espérance et la vigilance. À la pointe de la parabole des vierges sages et des vierges folles, ce n'est pas le fait que les insensés n'aient plus d'huile dans leur lampe, mais que les insensés, insouciantes, leur insouciance les ait conduits à ne pas être présents au moment de la venue du Seigneur. Alors j'ai pensé, mais ça n'engage que moi, que malgré tout, si elles étaient restées là à attendre l'époux, même dans l'obscurité, elles auraient été accueillies dans la salle de noces avec leurs lampes éteintes. Enfin, ce n'est qu'une une interprétation personnelle, mais elles n'étaient pas là. En tout cas, la leçon que Jésus tire de cette parabole, eh bien, veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez, être vigilant, c'est être disponible, disposé à entendre une parole nouvelle, disposé à changer de comportement si cela est nécessaire, disposé à ce que Dieu puisse intervenir dans ma vie, renoncer à être le maître de ma vie et à tout maîtriser, être ouvert à l'imprévu. Et ultimement, c'est être disponible à l'éternité. Et permettez-moi en guise simplement de conclusion de vous rapporter un propos que j'ai lu chez Saint Jean 23. Il parle de sa propre vie, alors qu'il est patriarche de Venise, il n'est pas encore pape. Gardez la simplicité et la douceur d'esprit qui maintient toujours et à toute heure de ma journée la disposition à tout quitter et à partir même subitement pour la vie éternelle. Alors prions les uns pour les autres, prions pour nos défunts, prions pour les malades, prions pour le monde de la santé, et que Dieu nous console et nous garde dans l'espérance.